Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le service protestant. Ce dimanche, nous recevons Didier Fievé, pasteur de l'Église protestante Unie de France à Toulouse. Il sera en dialogue avec Marie-Christine Perry, prédicatrice laïque, autour de la question et du rôle de l'utilité de Dieu.
Bonjour à vous tous et bonjour particulièrement à Marie-Christine qui va être mon interlocutrice pendant cette émission. Voici ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. L'Évangile, c'est d'affirmer que la vie, c'est pour rien. La vie, c'est pour rien ou ce n'est pas la vie. En d'autres termes, l'existence n'a plus besoin d'aucune justification. Salut. Salut à tous, salut à chacune et à chacun. En mon nom, au nom de l'Église protestante unie de France dont je suis pasteur, au nom de celui que j'appelle Dieu, à chacune et à chacun, je dis salut. Dieu bien étrange en vérité, puisqu'en Jésus-Christ, je crois qu'il se donne à connaître comme un Dieu pour rien.
Mais qu'entendez-vous par là ? Un Dieu pour rien. La Bible nous montre bien, au contraire, un Dieu qui agit, qui crée, qui soutient, qui pardonne, qui relève. Un Dieu qui donne sens au monde.
C'est vrai. C'est vrai, en général, quand on dit Dieu, que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on croit tout de suite savoir de quoi il s'agit. Une instance supérieure, première et ultime, fondatrice, quelque chose, une force, quelqu'un qui serait ou qui devrait être le garant de l'ordre du monde, qui connaîtrait les secrets de toutes les absurdités et de toutes les injustices que l'on constate tous les jours.
C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ne veulent plus y croire, parce qu'il y a trop d'injustices, trop d'absurdités dans ce monde chaotique.
Et oui, oui. On voudrait un Dieu qui expliquerait tout à la fois les merveilles de la nature et ses cruautés, qui serait le justicier dernier, qui rétablirait l'ordre et l'harmonie perdue, qui vengerait les victimes, qui sanctionnerait les coupables. Bref, on voudrait un Dieu qui servirait à quelque chose, un Dieu utile, un Dieu pour quelque chose. Mais je crois que l'Évangile dit au contraire un Dieu pour rien. Un Dieu qui ne sert à rien, qui ne répond pas aux questions laissées sans réponse. Un Dieu qui ne serait pas, si vous voulez, la pièce manquante au grand puzzle du monde. Je crois qu'être chrétien, c'est accepter de faire le deuil du Dieu utile.
Oui, mais alors à quoi bon un Dieu ? À quoi bon une foi ?
Eh bien, c'est exactement ce que je propose que nous entendions ce matin à partir du texte de Luc, l'évangéliste, qui nous est proposé pour ce dimanche. Je resitue le contexte. Les disciples de Jésus viennent juste de lui demander d'augmenter leur foi. « Mais si vous aviez ne serait-ce qu'une once de foi, leur répond-il, qu'est-ce que vous en feriez ? Vous seriez capable de commander à un figuier d'être jeté en pleine mer et d'y pousser. quoi de plus inutile, quoi de plus vain ? Alors, Jésus poursuit avec ces mots.
Je vous les lis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. « Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Je ne sais pas si nous sommes tous des ouvriers inutiles, mais on a l'impression qu'on n'en finit pas de devoir faire des choses. Labourer, s'occuper des bœufs, se faire présentable pour servir le patron. La journée n'en finit pas. À vrai dire, ils ne sont pas si inutiles que ça, les ouvriers. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une traduction qui parle d'ouvriers ordinaires et non pas inutiles.
Eh bien, ça montre bien la difficulté du texte. C'est pas très flatteur, cet inutile, pour ne pas dire décourageant. Pourtant, le grec original est assez clair. Akreios, a privatif, kreios, usage, utilité, nécessité. Inutile, donc. Et c'est vrai. Ce qui frappe de prime abord dans ce texte, c'est le contraste entre toutes les tâches qui sont exigés par le patron, et puis la conclusion. Dites, vous n'êtes que des ouvriers inutiles. Et on a envie de répondre, eh ben écoutez, si on est si inutile que ça, fallait pas nous le demander. Pourtant, à y réfléchir, nous faisons beaucoup de choses, nous œuvrons, et pourtant, ce qui agit est autre que nous. Par exemple, c'est le médecin qui soigne, mais c'est le malade qui guérit. C'est le cuisinier qui assemble les saveurs, mais c'est l'hôte qui déguste. C'est le pasteur qui prêche, mais c'est l'auditeur qui s'approprie, ou pas, la parole. Bref, on fait des choses, mais ce qui agit est ailleurs qu'en nous-mêmes.
Oui, mais enfin, quand même, il faut bien que le médecin soigne, que le chauffeur de bus conduise, que le chanteur chante. Sinon, rien ne se passe.
Eh bien, c'est exactement ce que dit Luc. Labourez, lavez-vous les mains, servez-moi à table. Bien sûr, c'est important de faire. Et moi, qui travaille dans une maison de chômeurs, je sais combien le sentiment d'inutilité peut être destructeur. N'empêche, dites-le comme une revendication. Nous sommes des ouvriers inutiles.
Alors, en fait, ce serait comme une prise de distance par rapport à son propre travail, par rapport à soi-même. Une invitation à ne pas confondre son identité propre avec sa profession ou avec ses engagements. En fait, je ne suis pas ce que je fais.
Je ne suis pas ce que je fais. C'est exactement comme ça que j'entends ce texte. Être libéré des idoles de l'utilité et de l'efficacité.
Ce sont pourtant des mots-clés de notre culture. Efficace, rentable, performant. On veut tous que notre vie soit utile, mourir avec le sentiment que notre vie aura été réussie et féconde.
Oui, sans doute. Mais ça nous met une sacrée pression. Ça nous enchaîne à un devoir faire pour être. C'est tout simplement épuisant. Au point que, quand on n'y parvient pas, quand on ne correspond plus à l'idéal d'utilité fixé, alors il arrive qu'on s'effondre. qu'on n'ait plus goût à rien, qu'on soit dans une désolation totale, qu'on burn out, comme on dit maintenant, qu'on déprime.
Entendre qu'on n'a pas besoin d'être utile pour avoir le droit d'occuper la terre, qu'on n'a pas besoin d'être utile pour avoir le droit de vivre, entendre qu'au bout du compte, on est toujours inutile, ce serait donc libérateur.
Nous disions combien nous étions enchaînés par l'injonction de rendre notre vie utile, rentable, efficace. Combien on s'y épuisait pour gagner quelque légitimité à notre vie. Mais il faudrait aller encore plus loin. À vouloir être utile, nos actions finissent par nier l'autre, celle ou celui qu'on prétendait aider. Cette mise en demeure culturelle, politique, économique, morale, religieuse même, dénature nos actions. Les plus nobles, les plus altruistes en deviennent vaniteuses. C'est une chose que nous expérimentons tous les jours à Théo 7.
Expliquez-nous ce qu'est Théo 7.
Eh bien, Théo 7, c'est un lieu d'écoute, d'accueil, de solidarité fondé par l'Église réformée de Toulouse il y a un peu plus de 30 ans. Un lieu pour rien, comme l'ont baptisé ses fondateurs. Un espace et du temps offerts pour rien, sans objectif d'efficacité et encore moins de rentabilité. C'est situé au cœur du Mirail, à Toulouse, donc, dans une zone réputée sensible. Certains diraient un quartier de gens à problème, un quartier de cas sociaux. Eh bien, à Théo 7, on fait le pari de rencontrer des gens et pas des problèmes. On écoute et on partage la vie, on ne traite pas des cas sociaux.
Mais quand même, vous faites des choses. Des cours de français, d'informatique, une aide à la confection des CV, une aide pour remplir les documents administratifs.
Oui, bien sûr, on fait tout ça. Mais ce n'est pas notre vocation. Et même, ça pourrait tout gâcher. Les personnes accueillies risqueraient de devenir des clients et nous des prestataires de services. Et on passerait complètement les uns à côté des autres. Les accueillis ne nous verraient plus que comme un guichet de plus et nous ne les verrions que comme un appel à la performance sociale. Une occasion de se rendre utile en quelque sorte. Mais au fond, ce que nous avons vraiment à offrir aux gens, ce n'est pas un savoir-faire. Ce que nous avons à offrir, c'est un partage. Et c'est le partage d'une même pauvreté foncière.
Pourtant, vous savez comment remplir le papier, comment rédiger la lettre, comment utiliser Internet.
Oui, bien sûr. Vous avez raison, il y a une certaine asymétrie. Mais pas autant qu'on pourrait le croire. Parce que d'abord, nous ne sommes pas, et nous ne voulons pas être, des professionnels du social. Et très souvent, c'est avec les personnes accueillies que, en même temps qu'eux, nous découvrons une solution possible, peut-être, aux problèmes dont ils font état. Et puis surtout, et c'est ça qui est important, nous ressentons avec eux la même impuissance face à des règles ou des usages administratifs tout le temps plus restrictifs. Il y a toujours une condition que vous ne remplissez pas. Il y a toujours un papier qui manque. Il y a toujours une case que vous ne pouvez pas cocher. C'est fait pour ça, d'ailleurs, la législation sociale. Pouvoir se prévaloir de résultats, montrer que les politiques publiques sont utiles en éliminant des gens hors des cases. Mais au fond, on s'en moque pas mal des gens, pourvu qu'ils disparaissent des statistiques. Alors nous, à Théo 7, nous ressentons tous cette frustration-là, cette même humiliation face à l'arrogance d'une société qui se vante d'être utile, mais qui n'est même pas capable de donner un emploi à chacun de ses enfants. Efficacité, utilité, pour qui ? Pour les gens ? Ou bien pour la société, pour qu'elle soit débarrassée des cas qui l'encombrent ?
Au fond, si j'entends bien, si Théo 7 sert à quelque chose, c'est d'être inutile.
Vous mettez le doigt dessus. C'est exactement ça. La merveilleuse efficacité de l'inutilité. Avec les mots de la théologie, j'appelle ça la grâce.
Alors, vous diriez que la grâce, c'est l'amour de Dieu pour rien, un amour inutile.
Eh bien oui, je crois que je dirais ça. Il y a d'ailleurs une vieille histoire juive que m'a confiée un ami rabbin. Un vieux paysan avait trois fils. Sur le point de mourir, il les fait venir. « Mes fils, je ne suis pas bien riche, mais j'ai réussi tant bien que mal à préserver ce troupeau d'ânesses. Et je voudrais que toi, l'aîné, tu hérites de la moitié du troupeau. Toi, le second du quart, et toi, mon dernier fils, je t'en laisse le sixième. » Quand les enfants font le tour du troupeau, ils comptent 11 ânesses. Je ne sais pas si vous voyez le problème. La moitié de 11, ça fait 5,5. Le quart, ça avoisine les 2,75. Et le sixième, les 1,833,33, et j'en passe. Ce n'est plus un partage, c'est un carnage. Et voilà les trois frères bien embarrassés. L'aîné se hasarde à demander conseil au vieux rabbin du village, un vieil homme plein de sagesse, qui finit par lui dire « Écoute, j'ai là dans mon écurie une vieille ânesse dont je ne sais pas vraiment quoi faire. Prends-la donc. Et puis, vous me la rendrez plus tard, si vous n'en avez plus besoin. » Et voilà, soudain, les trois frères à la tête de 12 ânesses. L'aîné s'envoie donc attribuer la moitié, soit 6 ânesses, le second 3, le cadet 2, toutes bien entières et bien vivantes. Chose étrange, faites donc le calcul. 6 et 3, 9, 9 et 2, 11. Ils se sont bel et bien partagés 11 ânesses. Et l'ânesse du rabbin, inutile, pour rien, ils la lui ont rendue. Elle n'avait servi à rien, mais elle avait tout changé.
Et en plus, chacun a reçu plus que le calcul ne le laissait prévoir. Il y a un truc. Sans doute y a-t-il une astuce de mathématicien.
Ah mais bien sûr, et tous les matheux qui nous écoutent ont déjà vu le truc ou sont déjà à l'affût. Mais on s'en fiche. Ça illustre bien le propos de l'Évangile. Dans la vie, il y a une part donnée pour rien qui fait toute la différence. Donner pour rien, c'est-à-dire gratuitement et librement, comme l'anglais « free », à savoir libre et gratuit. Pour rien. Rien que pour la liberté et la gratuité de l'existence humaine.
Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans cette gratuité, comme quand on parle d'un acte gratuit.
Eh bien oui, la liberté a toujours quelque chose d'inquiétant. C'est terriblement difficile d'oser penser, agir, croire en dehors d'une économie de l'utilité, c'est-à-dire en dehors d'une économie du contrôle et de la rétribution. Les religions s'inscrivent toujours dans le contrôle et la rétribution. On a cru les congédier, on les a en fait reproduites sur le mode profane. Et en pire, parce que la technologie et le profit, autre nom de l'utilité, sont, elles, sans aucune miséricorde. Ils n'épargneront pas même un enfant, pourvu ou pour peu qu'il soit considéré comme inutile. Mais l'Évangile, lui, nous affranchit de l'économie du contrôle et de la rétribution. Il nous offre un Dieu libre dont on n'a cependant rien à redouter, puisqu'il n'attend justement pas que nous soyons utiles. En d'autres mots, l'Évangile nous délivre de la religion. L'Évangile nous dit un Dieu pour rien, un Dieu vraiment pour rien, à qui on pourrait dire
« Toi, tu es un vrai père pour nous. »
Tu retiens la main meurtrière de tous les Abrahams. Tu refuses de nous sacrifier au Dieu de la patrie.
Que ton nom soit sanctifié.
Car tu es le nom pour rien, qui nous donne un nom pour rien.
Qu'il vienne ton règne.
Puisque ta royauté est pour rien, libère-nous de toute servilité et de toute prétention conquérante.
Que naisse ton désir sur la terre.
Et que comme un soleil levant, il inaugure ce jour comme une création de la gratuité de ton amour.
Nourris-nous du pain que tu nous réserves pour ce jour.
Pour que de demain nous n'ayons plus souci et que de nos fournis s'élève un parfum de partage.
Laisse aller nos dettes, comme nous avons laissé aller les dettes de nos débiteurs.
De redevables, nous voici solidaires. De redevables, nous voici vivants pour rien.
Ne nous transporte pas en épreuve.
Je le sais bien. Il n'y a que là, au pied du mur, dans le combat du deuil, dans l'écartèlement du doute, dans le pour rien du désert, il n'y a que là que peut jaillir l'audace de la confiance. Mais c'est tellement dur.
Alors je t'en prie, délivre-nous du méchant et du malheur
qui nous menace en nous et autour de nous.
Voilà le sol ferme de la confiance qui m'habite.
Ce qu'en hébreu on dit Amen.
Amen. À tous, nous souhaitons un bon dimanche dans cette confiance du Dieu pour rien.
Et que ce soit là, pour chacune et chacun, une vraie bénédiction.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Didier Fievé, pasteur de l'Église protestante unie de Toulouse, et Marie-Christine Perry, prédicatrice laïque. Merci à Viviane Noël pour la réalisation et à Éric Boisset pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Pour des informations complémentaires, téléchargements et podcasts, reportez-vous au site franceculture.fr ou protestant.org. Pour recevoir le texte de cette émission par courrier, écrivez au service radio de la Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h et la suite des émissions religieuses à 9h07 avec Marc-Alain Wachnin pour Talmudic. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.